Bonjour, bonjour! Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. C'est notre première émission de la nouvelle année 2021, en ce mois de janvier qui rime souvent avec les fameuses résolutions. Personnellement, je préfère appeler ça des décisions, ou plutôt des investissements dans ma santé physique, psychologique, relationnelle et financière. Parlant de finances, probablement que nos relevés de cartes de crédit étaient plus légers que les années précédentes parce qu'évidemment, en plein confinement, nous n'avons pas reçu, nous avons beaucoup moins dépensé. Donc, peut-être que minimalement, ça a été un fardeau de moins dans notre gestion de portefeuille. Néanmoins, janvier, ça demeure souvent le moment idéal pour faire des bilans, pour faire notre budget et adopter de bonnes résolutions financières. On en discute avec notre invitée en studio avec nous, Caroline Lalande du cabinet Mosaïque Services Financiers qu'on a reçu en 2020 et plus particulièrement des résolutions financières à adopter selon la génération à laquelle nous appartenons. Un peu plus tard dans l'émission, on parlera aussi d'autres résolutions comme probablement aller marcher. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens tout à coup qui ont pris cette résolution-là de marcher régulièrement parce qu'on a vu dans les réseaux sociaux beaucoup de gens qui étaient tout à coup enclins là, à vouloir faire des marches de fin de soirée après 20 heures et qui tentaient d'emprunter un chien pour faire leur marche. Bon, évidemment, je vous dis ça avec un petit peu de dérision, mais il reste que sur les réseaux sociaux, là, on dirait que le chien est devenu le nouveau héros, ce chien qu'on veut emprunter ou même louer pour continuer à marcher après le couvre-feu de 20 heures. Mais en fait, cette introduction-là est pour vous parler des animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, ils sont au cœur de nos vies. Ils comblent la solitude vécue par plusieurs et je pense qu'ils jouent un rôle prépondérant en cette pandémie. Dans mon cas, mon chat Miko m'évite de parler toute seule à voix haute. J'ai au moins l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Il ne me répond pas, bien sûr, mais bon, je me sens un peu moins seule. Donc, c'est ça. J'avais envie qu'on parle de la relation à nos animaux, l'importance dans nos vies. Alors, je vais retrouver avec grand bonheur la sociologue Valérie Harvé, que nous avons reçue quelques fois à Au fil du temps. Et avec cette nouvelle année qui commence, on fait des bilans, on fait des plans, parce qu'on espère que les choses vont changer. Alors, qui de mieux que Richard Séguin, surtout pour cette chanson « Les temps changent » pour nous partir cette première émission de 2021. « Les temps changent » de Richard Séguin.
Où que vous soyez, accourez, braves gens, l'eau commence à monter, soyez plus clairvoyants. Admettez que bientôt nous serons submergés et que si nous valons la peine d'être sauvés, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde et les temps changent. Ouvrez tout grand vos yeux, car il est encore temps. La roue de la fortune est en train de tourner, et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. Les perdants d'hier vont peut-être gagner, car le monde et les temps changent. Vous les pères et les mères de tous les pays, ne critiquez plus, car vous n'avez pas compris. Vos enfants ne sont plus sous votre autorité. Sur les routes anciennes, les pavés sont usés. Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés, car le monde et les temps changent. Messieurs les députés, écoutez maintenant. N'encombrez plus le rôle de propos dissonants. Si vous n'avancez pas, vous serez dépassés, car les fenêtres craquent et les
c'est la grande bataille qui va se livrer, car le monde et les temps changent.
Et le sort et l'été maintenant sont jetés, car le présent bientôt sera déjà passé. Un peu plus chaque jour, l'ordre est bouleversé. Ceux qui attendent encore vont bientôt arriver.
Les premiers d'aujourd'hui, demain seront derniers, car le monde et les temps changent. Car le monde et les temps changent. Car le monde et les temps changent.
Les temps changent de Richard Séguin. J'ai le grand bonheur de recevoir en studio cette fois-ci Caroline Lalande, à qui nous avions déjà parlé au téléphone. Caroline est présidente de Mosaïque, cabinet de services financiers. Elle est auteure de livres et également d'un coffret de cartes pour améliorer ses finances personnelles. Et je pense qu'il y en a même un aussi sur la charge mentale. Hein?
Oui, en effet. Bonjour Chantal.
Bonjour Caroline. Ben, j'imagine que ça va un peu de soi, hein, mais c'est nos finances personnelles et la charge mentale, là, ça doit faire travailler le hamster.
Ah, définitivement.
Donc, je voulais qu'on puisse aborder ensemble l'aspect des résolutions basées sur les générations. Donc, à savoir comment notre relation à l'argent et les décisions financières qu'on va prendre vont changer selon la génération à laquelle on appartient. Parce que j'imagine là, que ça me confirmer qu'il y a une différence là, au fil du temps.
Oui, définitivement. En fait, nos besoins financiers et nos objectifs diffèrent selon où on est rendu dans notre vie. Et en effet, janvier, c'est le temps des résolutions. C'est un bon temps pour se remettre en question. Outre, évidemment, certaines mauvaises surprises, comme par exemple la réception de nos relevés de cartes de crédit du temps des fêtes, etc., janvier, c'est généralement propice pour faire une espèce de bilan personnel et de voir où on en est rendu. Bien entendu, selon notre âge, nos objectifs sont différents. Donc, par exemple, un jeune de 20-30 ans qui débute sur le marché du travail, bon, peut-être que les objectifs sont plus orientés vers l'achat d'une maison, une meilleure gestion des dettes, des mauvaises dettes, de nos cartes de crédit, etc. L'apprentissage aussi de comment gérer notre budget. Et puis, ensuite, plus on avance en âge, bien là, évidemment, toute la discipline de l'épargne en vue de la retraite devient de plus en plus importante.
Mais reste que je pense qu'on ne peut jamais assez le dire. Probablement que plusieurs de nos auditeurs n'ont pas cet âge, mais ont des enfants ou des petits-enfants. Et justement, moi, hier, j'ai un fils de 27 ans qui a un nouvel emploi et qui va se dégager une belle marge de manœuvre financière. Et je lui ai réitéré l'importance là, de l'intérêt composé. Et je pense que vous avez une belle image hein, pour illustrer ça, l'intérêt composé.
Oui, en fait, j'aime beaucoup imaginer les choses parce que les finances, des fois, c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. Donc, je trouve de mettre une image, ça facilite sa compréhension. En fait, quand on met de l'argent de côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire des intérêts. Et au fur et à mesure que le temps avance, le montant accumulé va grandir. C'est un peu comme quand on fait un bonhomme de neige. On parle de tempête hein, au mois de janvier. Donc, quand on commence notre boule de neige, elle est tout petite. Et au fur et à mesure où on pousse la neige, la balle grandit, la boule grandit, et elle attrape de plus en plus de neige. Donc, après, sa croissance devient beaucoup plus rapide. C'est exactement la même chose avec nos épargnes.
Donc, c'est vraiment de prendre l'habitude, ce qui veut dire, par exemple, j'imagine vous recommander peut-être des prélèvements autorisés.
Il y a plein de façons de fonctionner, tout dépendant aussi de notre travail. Par exemple, un travailleur autonome n'a peut-être pas la capacité de prélever son jour de paye, alors que quelqu'un qui a des payes régulières peut dire, ben moi, je vais faire un prélèvement à chaque fois où l'argent de ma paye entre. Donc, il y a différentes façons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Hein. Il y a des solutions adaptées à notre situation. Mais en effet, de mettre des petits montants de façon régulière, c'est excellent. Et au fur et à mesure qu'on s'adapte à cette nouvelle dépense, ben c'est d'augmenter un petit peu le montant pour, évidemment, finalement, arriver à notre objectif financier.
Donc, si nos auditeurs ont des enfants ou des petits-enfants de cet âge-là, quel conseil là, ils pourraient leur donner?
Mais je pense que le premier conseil, c'est d'avoir une certaine ouverture avec nos enfants, de leur parler de l'importance de la discipline d'épargne et de mettre en place quelque chose. Et souvent, on pense qu'il faut que ce soit des gros montants. Non. Pour certaines personnes, c'est 5 $ mis de côté. Il y en a d'autres, c'est 25. Il y en a d'autres, c'est 100. Peu importe. L'important, c'est d'entamer la discipline et d'essayer d'augmenter un petit peu à chaque année. Évidemment, quand on a une ouverture avec nos enfants, on leur facilite parce qu'on aura beau dire, comme parents, l'éducation, ça devient un peu notre responsabilité.
Oui, d'ailleurs, mon plus jeune fils de 17 ans, je lui ai dit qu'on ferait son budget en début d'année, puis il m'a répondu « Est-ce que je suis obligée?
» On voit déjà l'intérêt.
Oui, parlant d'intérêt. Mais en fait, c'est très drôle parce qu'il a gagné un concours de simulation boursière. Donc, il y a quand même un certain intérêt, mais c'est juste que ce que je trouve extraordinaire du budget, c'est que ça nous amène à se poser des vraies questions sur nos dépenses. Et j'ai l'impression que là, avec la pandémie, ça a probablement amené plusieurs personnes à revoir leurs dépenses.
Oui, en fait, ce qui est très particulier, c'est que la pandémie a créé deux choses complètement distinctes. Certaines personnes se sont retrouvées vraiment avec des montants moindres, se sont retrouvées dans une détresse financière, et ce n'est pas à sous-estimer. Par contre, d'autres personnes ont été en mesure de maintenir leur emploi, de maintenir leur rythme de vie, mais tout à coup ne pouvaient plus autant dépenser. Donc, il y a eu une espèce de prise de conscience sur où va notre argent. On fait beaucoup de dépenses sans réfléchir. Et la pandémie aura ça de beau parce que moi, bon, je suis une éternelle optimiste.
Ça a l'air que c'est mieux pour la santé.
Oui, c'est ça. Donc, je vois toujours le beau, peu importe la situation, ou du moins, j'essaie de trouver le beau. Et donc, de se poser la question sur nos dépenses, ça amène plein de choses. Et de un, on peut arrêter de dépenser pour des choses qui finalement ne sont pas du tout significatives. Et ensuite, quand on prend cette décision-là, on le fait de façon consciencieuse et on l'apprécie d'autant plus parce que c'est un choix qu'on a fait. Et en fait, ce que plusieurs articles que je lisais disent, c'est que l'épargne va être augmentée beaucoup parce que les gens ont dû réduire leurs dépenses. Il y a une bonne portion qui ont pu maintenir les revenus et donc cet excédent-là va s'en aller à l'épargne.
Mais je regarde juste quand on fait nos courses en ce moment, évidemment, nous sommes tenus là, aux articles essentiels et j'avais une amie qui me disait qu'avec sa conseillère financière, elle s'est rendue compte qu'un poste budgétaire qu'elle avait sous-estimé, c'est tous les petits trucs à la pharmacie qu'elle achetait un petit peu comme ça sans nécessairement y penser, mais que là, il y a des gros X dessus. Donc, on ne peut même pas les acheter, mais elle s'est rendue compte que ça représentait quand même un bon montant.
Oui, c'est un excellent exemple, en fait, de petites dépenses comme ça. Et à ce moment-là, viendra à elle la décision, est-ce que je continue mes anciennes habitudes ou ce que je reprends plutôt, je devrais plutôt dire, reprends mes anciennes habitudes ou je fais le choix, finalement, de ne pas continuer ou encore de le faire, mais quand je le fais, c'est vraiment de façon posée.
Bien, je dirais que malheureusement, effectivement, il y a des moments plus difficiles dans la vie et qui nous obligent à scruter, à sortir la loupe pour regarder de façon plus étroite, par exemple, nos assurances. Est-ce qu'on est trop assuré? Est-ce qu'on est mal assuré? Est-ce qu'on paye trop? Un paquet de dépenses comme ça, moi personnellement, bien, comme plusieurs, hein, c'est les voyages, les soupers au resto, les vêtements qui ont écopé. Mais en même temps, je me suis dit, je ne crois pas que je voudrais maintenir ce type de dépenses-là. Par exemple, j'ai commencé à m'habiller dans les friperies. J'ai découvert un paquet de friperies extraordinaires et au niveau conscience écologique, ça m'a vraiment rassurée avec mes valeurs. Et je me suis dit, tiens, probablement que je vais avoir envie aussi de recevoir plus à la maison, d'autant que là, on a eu le temps pour tester des nouvelles recettes.
Oui, c'est ça. Donc, je pense que les habitudes vont changer. Il va y avoir toute une portion de la population, bien entendu, qui vont juste revenir à leurs bonnes vieilles habitudes, comme on dit. Mais la pandémie aura permis à plusieurs de se questionner, ce qui est, je crois, excellent.
Et comment on pourrait, là, c'est le bon temps pour le faire, vraiment regarder ce qu'on a dépensé l'année dernière et se dire, tiens, voici l'objectif que je me fixe, là, et je fais soit un prélèvement ou je prends une décision claire et consciente.
Oui, on dit qu'habituellement, avoir une nouvelle dépense dans notre budget, ça prend 3 à 6 mois à assimiler, en fait, avant qu'on on s'en rend plus vraiment compte. Donc, pour certaines personnes, ils ont des gestions budgétaires mieux serrées. Pour d'autres, pas du tout de budget. Il y en a qui ne sont pas capables de faire un budget. Donc, pour ceux qui ne sont pas capables de faire un budget, je pense qu'une des bonnes choses à faire, c'est d'arrêter de payer de différentes méthodes. Soit on paye tout comptant, soit on paye tout Interac, ou soit on paye tout carte de crédit qu'on paye intégralement à la fin du mois, bien entendu, parce qu'on ne veut pas payer d'intérêt très élevé. Donc, si on fait ça, on a une meilleure vision globale de nos dépenses, et là, on essaie d'incorporer une discipline de placement qu'on maintient, et puis éventuellement qu'on augmente.
Mais c'est surtout que je trouve qu'il y a des outils financiers. La plupart des banques ont des modules ou des applications qui caractérisent ou catégorisent déjà les dépenses.
Oui, tout à fait. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. La technologie nous a permis plein de choses. Par contre, il ne faut jamais oublier l'importance du conseil. Donc, je dis toujours à mes clients, mais aussi aux gens de mon entourage ou les gens qui ne sont pas nécessairement dans ma clientèle, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien les finances, qui est en mesure de vous appuyer, de vous conseiller pour votre situation en particulier. Parce qu'on n'est généralement pas très bon pour se conseiller soi-même. Et j'en suis le premier exemple. Je suis obligée de demander l'avis d'une collègue souvent.
C'est bon. Ben, je pense qu'il y avait une étude qui disait justement que le 3/4 des Canadiens là, cherchent des conseils, entre autres de retraite, là, suite à la pandémie.
Oui, puis souvent, on a une mauvaise compréhension de ce qu'on a. Et les REER, c'est un bon exemple. On en parle tellement qu'on a l'impression que tout le monde sait c'est quoi. Et souvent, on est gêné de poser la question, c'est quoi vraiment un REER? Donc, c'est important d'avoir quelqu'un de confiance en qui on peut poser des questions.
Ben parfait, Caroline, on va en musique et après la pause, nous allons discuter des familles. Donc, Money, Money, Money de ABBA.
Money, money, money.
Money, abba! Alors, de retour avec Caroline Lalande, présidente de Mosaïque, cabinet de services financiers. On parle des résolutions financières. On va parler très rapidement des familles avec enfants qui sont toujours à la maison, mais je veux qu'on se garde plus de temps pour discuter de ceux qui sont à l'aube de la retraite et à la retraite, parce que j'ai l'impression que ça couvre peut-être un pan plus large de nos auditeurs. Donc, peut-être là, quelques petits conseils pour les familles.
Oui, donc pour les familles, on connaît beaucoup le régime enregistré d'épargne études. Donc, c'est un programme qui nous permet de mettre de côté de l'argent pour nos enfants. Le gouvernement vient bonifier pour leurs études. C'est important de connaître que le programme existe, de regarder si c'est bon pour nous, puis de savoir aussi si, par exemple, on vit avec un enfant différent. Si jamais il ne va pas aux études, il y a toujours la possibilité de rouler dans un RI, le régime enregistré d'épargne invalidité. Mm-hmm. Donc, à chaque année, on a un nouveau droit. C'est le début de l'année. Donc, c'est le bon moment pour en discuter avec votre conseiller. Aussi, la période REER s'en vient. Mm-hmm. Il ne faut jamais oublier que lorsque l'on prend des REER, cela vient faire réduire notre revenu familial. Et c'est le revenu familial qui est considéré pour le montant des allocations qu'on reçoit au niveau gouvernemental. Donc, de prendre un REER peut non seulement avoir des bénéfices sur un retour d'impôt potentiel qu'on peut avoir, mais aussi d'augmenter nos allocations familiales, ce qui n'est pas peu dire.
Mm-hmm. C'est bon. Donc, maintenant, ceux qui sont à l'aube de la retraite. Bon, moi, j'ai 51 ans. Je ne crois pas que la retraite est pour bientôt, mais il reste que, on ne sait jamais, on ne connaît pas l'avenir. Et il reste que j'ai pas, disons, j'ai plus d'années professionnelles derrière moi, probablement. Donc, pour mon groupe d'âge, là, quelles seraient les meilleures résolutions?
Oui. Donc, plus on approche de la retraite, il va arriver quelque chose qui est naturel, c'est qu'on vient avec une certaine aversion pour le risque. Donc, quand on parle de placement, évidemment, cette année, c'est l'an dernier, je devrais plutôt dire, on est en nouvelle année déjà. Donc, l'an dernier a été un bon test. On a vécu la pandémie et on a vu la chute des marchés boursiers.
Ouais.
Et là, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, pas parce que c'est arrivé, mais j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça m'a permis vraiment de connaître ma clientèle. J'ai vu qui m'avaient dit qu'ils étaient capables de vivre des baisses et qui ne l'étaient pas, versus ceux qui l'ont très, très bien vécu alors qu'ils pensaient avoir de la difficulté. Moi, comme conseillère, ça m'a permis de vraiment bien connaître ma clientèle.
Et de vous adapter en conséquence.
Oui, parce que c'est important de nous respecter. Il faut toujours se respecter en finance parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas du tout rationnel, c'est très émotif.
Mm-hmm.
Quand on parle de nos sous, c'est émotif. Il faut être en mesure de dormir après avoir vu son relevé. Et donc, la pandémie a créé chez certaines personnes une crainte des crashs boursiers, en fait, malgré le fait que tout a été récupéré très rapidement.
Mm-hmm.
Mais quand on l'a vécu, et même après, il y a certaines personnes qui sont restées avec une grande aversion au risque. Et cette aversion-là, finalement, plus on vieillit, plus elle augmente. Et là vient toujours la bonne combinaison de dire, est-ce qu'on ramène notre risque? On devrait, si on n'est pas à l'aise, définitivement. Mais il faut toujours faire attention à ce que nos placements puissent générer suffisamment pour convenir à nos besoins de retraite.
Et si on parle justement plus des retraités, je lisais dans une étude là, que vous m'avez fait parvenir que 80% des retraités jugent qu'ils ne sont pas bien informés à propos de leur pension. 80, oui. C'est quand même élevé.
C'est énorme. Il y a plusieurs choses, en fait. Premièrement, contrairement à moi, je pense que la majorité des gens n'ont pas tant d'intérêt envers les finances, malheureusement. Moi, j'aime ça, j'en mange, etc. J'en ai fait ma carrière. Mais pour certains, ils n'aiment pas du tout en parler.
Donc, en même temps, ça, c'est lié, on dit on en mange, hein, ça nous permet de justement bien manger, puis...
Exact.
Pouvoir profiter de la vie ou assurer notre confort.
Donc, souvent, je me dis que c'est un mal nécessaire.
Mm-hmm.
Moi, je pense que le conseil est très important. C'est important de trouver une personne en qui on a confiance, qui est capable de nous épauler à travers le temps. Et cette personne-là pourra nous expliquer et nous suivre et nous faire comprendre certaines choses à travers le temps. Donc, le conseil est très important. Les gens, souvent, sont moins informés. En fait, les personnes plus âgées avaient des fonds de pension.
Mm-hmm.
Le fonds de pension, il y a des côtés extraordinairement beaux du fonds de pension, mais une chose que ça l'a provoqué, c'est qu'on se laisse bercer sans se poser de questions.
Mm-hmm.
On ne prend pas en charge du tout nos finances à la retraite. Donc, les gens disent, moi, si je travaille 30 ans, je suis correct, j'ai mon full fonds de pension, comme on dit.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, c'est plus tellement vrai parce que de moins en moins de gens ont des fonds de pension et ceux qui ont des placements avec l'employeur, bien, se doivent de prendre en charge leur retraite. Et donc, on est en train finalement d'amener la responsabilité vers l'individu et là, il y a comme une espèce de rattrapage qui doit être fait sur bien comprendre comment ça fonctionne, les rouages, puis voir si on est vers le bon chemin finalement.
Je me dis aussi en termes d'éducation financière, des fois on pense à notre futur, mais il reste que parfois il y a des dépenses actuellement dans le présent qui sont peut-être pas les plus judicieuses ou les plus optimales, qui ont un effet justement pervers sur le futur. Donc de s'y intéresser au présent, ça a un grand impact sur le futur.
Oui, tout à fait. Puis quand on parle d'endettement, tantôt, ben entre autres, il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Et il y a des supposément bonnes dettes qui peuvent devenir des mauvaises dettes si elles sont excessives. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, en fait, de généraliser. Quand on parle, par exemple, de bonnes dettes, on parle de maisons, on parle de dettes qui génèrent des actifs. Donc, par exemple, une maison, par exemple, si on emprunte pour prendre un REER, donc ce sont des pratiques qui se font assez couramment. Par contre, si on emprunte pour prendre un REER, mais qu'on est obligé parce qu'on paye ce REER-là de mettre des montants sur une carte de crédit à 19 %, c'est un exemple où une bonne dette devient une mauvaise dette, finalement.
Oui. Et donc, justement, pour ceux qui ont fini là, de contribuer à leur REER et qui doivent décaisser peut-être des derniers conseils...
Oui, donc à l'aube de la retraite, le conseil devient très important. Moi, je suggère toujours aux gens, premièrement, de diversifier leur portefeuille. Donc, on voit souvent des gens qui ont ce qu'on appelle un fonds équilibré. Donc, ils me disent, Caroline, je suis diversifiée parce que c'est un fonds équilibré. Oui, je comprends, mais moi, ce que j'aimerais voir sur un relevé, c'est plusieurs fonds. Donc, trois ou quatre fonds. Ce qui veut dire que si, par exemple, on vit une chute financière comme on a vécu au printemps et que vous avez besoin de 5 000 $ mais si j'ai trois ou quatre fonds, dont un ou deux est très peu risqué, ça me permet d'aller décaisser à ces endroits-là qui n'ont pas subi de perte. Ce qu'il faut bien comprendre, que quand notre relevé indique moins 5, on n'a pas réellement perdu moins 5 %. C'est que nos placements ont diminué, mais si on leur laisse le temps de remonter, on n'aura rien perdu. On perd réellement quand on va chercher les montants quand on est dans le négatif. Donc, de bien diversifier nos portefeuilles. Et ensuite, quand on met des montants, quand on investit des montants, on essaie de ne pas jouer à la loto de la journée de l'investissement. Ce qu'on veut, c'est un rendement constant. Donc, si par exemple, quelqu'un a un petit héritage, décide de mettre 20 000 $ il peut mettre 1 000 $ par semaine pendant 20 semaines. On vient niveler le risque.
Hey, Caroline Lalande, on se reparle une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Au menu de cette deuxième demi-heure d'Au fil du temps, nous poursuivons sur nos résolutions 2021, mais avant, nous allons causer de nos animaux de compagnie. Ces êtres chers avec qui on aime prendre des marches, qu'on aime flatter, avec qui on aime converser, ces petites boules d'amour qui nous font tant de bien. Alors, tout juste avant de retrouver Valérie Harvey, sociologue que nous avons déjà reçue à l'émission, je vous offre une chanson bien de circonstance, « Les animaux » de Claude Pelgag.
Dis que tu partais pour aller boire aux nuages. Les animaux que je connais n'ont jamais soif des orages. Mais toi tu bois ce qui se boit et tu te fous de la nature. Tu m'as pas dit que tu aimais aller regarder les étoiles. Les animaux que je connais ont peur que ne leur fasse mal. Mais toi, tu aimes les planètes. et tu crois qu'elle te regarde. Mais toi tu aimes les planètes et tu aimerais qu'elle te garde. Tu m'as pas dit que tu rêvais souvent à un atterrissage.
Les animaux de Claude Pelgag. Alors, les fameux animaux, hein, on en parle beaucoup parce que là, il y en a beaucoup qui veulent sortir leurs chiens en ce temps de pandémie. Oui, ils occupent une grande place dans notre vie, ils comblent un vide, parfois ils meublent notre solitude. On parle d'ailleurs des femmes célibataires mûres, hein, comme des Madame Chats. On vante les bienfaits de la zoothérapie chez les enfants, chez les personnes âgées. Bref, j'avais envie de discuter avec notre sociologue en résidence, Valérie Harvé, de l'importance des animaux. Bonjour Valérie.
Bonjour, bonjour Chantal.
Plaisir de te retrouver en 2021.
Eh oui, bonne année à tous les auditeurs et auditrices aussi.
Alors, est-ce que tu as un animal de compagnie toi-même, Valérie?
J'avais deux chats. Hein, ils sont restés avec nous pendant 14 ans, puis depuis quelques années, ben, on n'en a plus.
Donc là, il y a toute une histoire là, hein, autour des animaux, la relation chien-chat aussi, entre autres.
Oui, c'est assez étonnant, en fait, hein, notre amour pour les animaux domestiques, on s'entend, on a eu des animaux d'élevage pendant longtemps, mais les animaux domestiques, ça monte à beaucoup plus loin qu'on le croit. On est assez au courant. Là, c'est sûr que maintenant, il y a plusieurs types d'animaux domestiques. Hein. J'ai fait des recherches sur Internet. Là, j'ai trouvé qu'il y avait des girafes, des chameaux, des cochons, des ratons laveurs. C'est pas tout à fait celui-là dont on va traiter
Non.
aujourd'hui, on va s'attarder. Ouais, on va se concentrer sur les deux plus populaires, les chats et les chiens. Donc, ça, c'est assez étonnant parce qu'on connaît bien l'histoire des chats avec les Égyptiens. Ça remonterait à 7000 ans. Le plus vieux crâne de chat qu'on aurait trouvé est à Chypre, en fait. Puis c'est pas mal dans le coin du Moyen-Orient, de l'Égypte. C'était même une déesse. Hein? On avait la déesse Bastet, qui était une charte en Égypte.
Ah ouais.
Donc, il y a des animaux qui étaient momifiés. Donc, il y avait vraiment quelque chose entre le chat et les Égyptiens, et même avec les chiens aussi. On les utilisait pour la chasse principalement. Mais ça remonte encore à plus loin si on pense aux chiens. On pense que j'écoutais un épisode très intéressant d'Aujourd'hui l'Histoire, et on pense que ça remonterait avec les chiens à quelque chose comme 10 à 12 000 ans. On a même trouvé un vieux crâne canin de 31 000 ans en Belgique. Bon, là,
Wow.
on ne sait pas si c'est un chien ou un loup, parce que c'est un peu entre les deux, c'est une race particulière, donc c'est difficile de conclure, mais ça reste que, d'après moi, ça fait longtemps que les êtres humains développent des relations particulières avec leurs petits félins et leurs petits canins, ou plus grands canins, hein. Il y en a qui sont assez grands maintenant. Donc moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que cette année, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont allés chercher un animal de compagnie, hein, qui ont
Ouais.
fait une recherche pour avoir un chat ou un chien. C'était très, très, très populaire. Alors qu'on sait qu'au Québec, ben, on n'a malheureusement pas une bonne réputation pour l'abandon des animaux
Ouais, avec les
autour du mois de
déménagements,
juillet.
entre autres, hein.
Ouais. Ah oui, ça, c'est assez triste. C'est pas la statistique dont je suis la plus fière à propos des Québécois, je dirais. Mais bon, je peux comprendre aussi les circonstances là, qui amènent les gens à plus savoir quoi faire avec leur animal là, quand ils déménagent, mais ça reste que il faudrait penser à ça quand on les adopte. Donc, j'ai entendu beaucoup d'inquiétudes aussi des organismes qui s'occupent des chiens et des chats parce que justement, on s'inquiétait devant le fait que tant de monde avait voulu adopter, si ça n'allait pas donner une pandémie d'abandon par la suite.
Oui, effectivement.
Donc, bref, ouais, donc moi, ce que je me suis demandé, c'est-tu bon pour la santé, un chat puis un chien? Puis moi, c'est très drôle parce qu'ici, en Occident, à chaque fois que je pense au chien, je me rappelle la fameuse pub de Fido, je ne sais pas si tu l'as vue il y a quelques
Ouais,
années.
ouais, oui.
On voyait la personne photographiée avec son animal. Puis d'ailleurs, sur Facebook, il y a tout dernièrement, j'ai vu une série de photographies qui est exactement le même concept. Donc, on associe la personnalité du chien avec
Son
l'image de son
propriétaire,
maître. Ouais, c'est
oui.
ça. Puis donc, ici en Occident, pour nous, on ressemble à notre animal. Donc, si on est un chat, ben, on est plutôt solitaire, hein, tu sais. Puis si on aime les chiens, ben, c'est qu'on est plutôt sociable. Alors que moi, j'ai vécu au Japon, puis au Japon, c'est pas comme ça qu'on interprète ça. On te pose souvent la question, t'aimes-tu mieux les chats ou les chiens? Alors, Chantal, préfères-tu les chats ou les chiens?
Ah, moi, j'ai eu les deux. Donc, mais pour le moment, ma vie m'autorise davantage un minet qu'un chien, mais je me dis plus tard dans ma vie, justement parce que je veux m'assurer de lui consacrer tout le temps voulu. Mais c'est plus tard le chien, mais j'en ai eu plus jeune.
Ah, donc t'as testé les deux, toi.
Oui,
Moi, je
oui.
suis vraiment plus une personne chat, et ça, c'est très drôle parce que quand la dame m'a demandé ça au Japon, elle m'a dit, ah, OK, donc toi, tu es une personne qui est capable d'être plus indépendante. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ben, elle dit, parce que les gens qui veulent des chiens, ils sont un peu dépendants affectifs. Là, pour eux, donc, les Japonais associent, si on veut, le fait de vouloir un animal comme plus un complément de ce qu'on a besoin,
D'accord.
au lieu de quelque chose qui nous ressemble. Donc, c'est intéressant, j'ai trouvé que cette interprétation, elle n'est pas vraie dans les deux sens, là, mais elle est très, très, très intéressante. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? On entend souvent parler de la zoothérapie.
Oui.
Mais c'est vrai qu'une exposition directe à un animal domestique peut améliorer certains aspects de la santé. Donc, on sait que le chien, ça fait marcher. En ce moment, il y en a qui en
Oui,
profitent
c'est
après
ça.
20 heures, comme tu l'as bien dit. Ça facilite aussi le contact avec les autres, hein, surtout pour les chiens, mais les chats aussi. Donc, on parle de nos animaux, on les compare,
On les voit
on
dans les
rit.
meetings Zoom,
Oh oui,
apparaître à
surtout.
l'écran.
Oui, ça peut donc diminuer notre stress quand tu vois dans un meeting Zoom le chat sauter sur l'écran, tout le monde part à rire. Donc, quelque chose qui se transmet même aux gens qui n'ont pas l'animal. Et ça peut aussi diminuer la peur d'être mis de côté socialement. Ça, c'est assez intéressant pour
OK,
les
dans quel
personnes qui
sens?
vieillissent. Ben, dans le sens où on établit des liens avec un groupe qui possède aussi un animal. Donc, peu importe la personnalité de la personne, du maître, en fait, ou la maladie, parce que souvent, même pour les gens qui sont malades, on sait que d'avoir un chat, un chien, c'est une bonne chose. Ça apporte des bienfaits, effectivement. Mais on s'est rendu compte que côté relations sociales, c'était beaucoup plus complexe qu'on pensait. Par exemple, ben oui, ceux qui ont des animaux, ils ont tendance à moins sortir en activité sociale. Là, on ne parle pas d'aller promener son chien. Donc, tu sais, si tu es une personne âgée, tu ne vas peut-être pas aller au bingo aussi souvent parce que, bon, ton chat, ça va être son heure de souper ou je ne sais pas trop quoi, mais bref, il faut que tu sortes ton chien, donc tu vas
Il y a
revenir à
certaines
une certaine heure.
restrictions, là, effectivement.
Oui, exactement. Donc, ils ont remarqué ça. Donc, il y avait souvent chez les personnes qu'on a étudiées au Canada, c'est une étude canadienne, on s'est rendu compte que les personnes qui n'avaient pas d'animaux, ils étaient aussi satisfaits que les autres, mais ils avaient tendance d'avoir un niveau de participation sociale un petit peu moins élevé. Mais là, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? C'est-à-dire, est-ce que c'était des gens qui sortaient déjà moins avant qui ont des animaux? Ou ça, on ne sait pas. Oui, c'est le fait d'avoir des animaux qui fait qu'ils sortent moins, c'est dur à dire. Mais ce qu'ils se sont rendu compte aussi, c'est que si les gens avaient des animaux et sortaient quand même, ils étaient généralement plus satisfaits que les non-propriétaires d'animaux.
Ah, d'accord.
Donc, tu vois, finalement, on n'a pas fini d'étudier la relation entre l'être humain et l'animal parce que c'est quelque chose qu'on commence tout juste à faire, hein. C'est pas, on a toujours eu des animaux, oui, on le sait historiquement, mais on ne sait pas encore tout à fait pourquoi ça nous fait du bien le ronron d'un chat, par exemple. Moi, pour avoir eu des chats, pour aimer aussi les chiens, ce que je me dis qui est extraordinaire dans un animal, c'est qu'il t'accepte peu importe l'apparence que tu vas avoir, la voix que tu vas avoir, c'est à ton ton. Il n'y a pas de doute, l'animal t'aime. Et ça, je pense que cet accueil-là qu'on a de nos animaux domestiques font toute la différence. C'est une relation, je dirais, d'amitié très durable dans le temps.
Hey Valérie, j'avais une petite curiosité. Tu parlais du
Vas-y.
Japon tout à l'heure et je sais qu'il y a, on voit souvent ça là, dans les boutiques asiatiques, ce petit chat là, qui tend la main, des manekis Neko, quelque chose comme ça.
Oui, c'est le petit chat blanc avec
Oui.
une patte relevée. Alors, près de son visage, hein, c'est un symbole d'appel de la chance.
Ah.
Donc, quand tu vois ça, c'est que les gens veulent de la chance sur le lieu où ils ont posé, donc un restaurant, c'est qu'on souhaite qu'on ait de la chance. Donc, effectivement, un chat, c'est un bon signe au Japon. Donc, c'est un appel de chance. Souvent, les animaux vont être associés avec certaines caractéristiques. Le hibou au Japon, quand on le croise, c'est aussi la chance. Et le tanuki, c'est dur à traduire.
Tanuki.
Un tanuki, c'est pas une belette, c'est pas non plus un raton laveur. C'est un animal un petit peu entre les deux. On n'en a pas vraiment ici. Je pense qu'on appelle ça un chien verret ici,
Ah,
mais
j'en ai
non, pas.
jamais vu,
Moi
Valérie.
non plus. Moi non plus. Mais le tanuki, bref, quand on voit cet animal-là, en fait, c'est qu'on veut appeler le succès de notre compagnie. Donc, il va en avoir beaucoup, beaucoup à l'entrée des boutiques. Avec souvent des manekineko. Et j'ai même commencé à voir des manekineko avec les deux pattes levées.
Ah.
Donc, ça, là, on s'appelle beaucoup,
Ah,
beaucoup
ben
de
écoute,
chance.
on n'a pas trop de chance en ce moment, mais je suis assez étonnée justement dans certaines boutiques asiatiques, peut-être plus chinoises, de voir tous les animaux et on va te demander justement qu'est-ce que tu as besoin. Et chaque animal a son emblème aussi par rapport à ce qu'on souhaite. J'ai eu l'occasion de voyager dans certains pays où, par exemple, il y avait des tortues dans un bac à l'entrée de la boutique pour protéger. C'est assez
C'est la
fascinant.
longévité aussi, les tortues, ça c'est la grue au Japon symbolise aussi cette longévité-là. Donc dans un mariage, on va souvent avoir des symboles des grands oiseaux, là, les grues, parce que ce sont des animaux fidèles, donc on se souhaite ça dans un mariage, et qui sont aussi qui durent longtemps, donc qui ont une longue vie, et c'est ce qu'on souhaite aussi aux gens qui se marient. Donc c'est beau, puis tous les signes astrologiques chinois, hein, ce sont des animaux, donc et chaque
C'est
animal
vrai, c'est
est
vrai.
associé, ouais, chaque animal va être associé, ah, d'ailleurs, parlant des chats. Côté horoscope chinois, le chat n'est pas dans l'horoscope chinois.
Ah,
Et c'est parce qu'il s'est fait jouer un vilain tour par le rat qui lui avait donné la mauvaise heure pour se rendre rencontrer le dieu. Et c'est depuis ce jour que le chat en veut à la souris ou au rat, c'est comme on veut, et qu'il essaie de la chasser, mais la souris était particulièrement intelligente et réussit toujours à s'en sortir. Mais dans certains pays, au Vietnam entre autres, on a remplacé le lapin par le chat parce qu'on trouvait que c'était trop triste comme histoire.
Ben, écoute, on apprend toujours plein de choses avec toi, Valérie, et on se reparle bientôt. Et donc, parlant de chats un peu malicieux, je te propose qu'on écoute Chat sauvage, non pas de Marjo, mais en fait la version des Sœurs Boulay.
Oh, bravo, je l'adore celle-là.
Alors, on écoute ça, puis à très bientôt, Valérie Harvey.
Bye bye.
Merci beaucoup. Au revoir. Ok, merci.
Marivoise, pas les chats sauvages. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer, jamais chercher à les garder. Doucement, je veux voyager en jasant d'amour et de liberté. On n'emprisonne pas les cœurs volages, pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre. Laisser aller toujours sans chercher à comprendre. Il marche seul et non qu'un seul langage. Celui de l'amour, celui de la vie. Il chante pour toi si t'en as envie.
Chat sauvage, la version des Sœurs Boulay. Alors, on poursuit sur les résolutions pour l'année 2021 et je vous confie quelques-unes des miennes. En fait, comme je mentionnais, pour moi, c'est plus des décisions et des investissements dans ma santé physique et mentale. Alors, on a parlé de marcher avec notre animal. C'est sûr que là, avec le chat, ça sera un petit peu plus difficile, mais moi, j'aime bien marcher avec un balado et ça tombe bien à vue et voix, on produit un paquet de livres audio vraiment intéressants et à Canalem, on peut réécouter toutes nos émissions sur Spotify, Apple Balado, Google Play Music. Donc, marcher un 30 minutes par jour en écoutant une émission de Canal M, c'est un combo extraordinaire pour notre santé physique et mentale. Il y a plusieurs études qui démontrent justement que 30 minutes de marche par jour, que ce soit consécutif ou non, aide à perdre du poids, à améliorer la santé cardiovasculaire, notre endurance et notre santé mentale. Il y a même une étude du Journal of the American Medical Association qui démontrait entre autres que les personnes qui font 8000 pas par jour avaient 51% moins de risque de mourir prématurément. Alors, à vos bottes, on marche! Parmi les résolutions que je souhaite adopter, c'est également d'apprendre une nouvelle langue. Ça fait très longtemps que je veux apprendre l'espagnol et quand j'ai vu un peu là, à quel point les études démontraient que apprendre une nouvelle langue est extraordinaire pour le cerveau, pour retarder les premières crises de démence et les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Il semble qu'apprendre une nouvelle langue est vraiment l'une des résolutions extraordinaires pour la santé de notre cerveau. Je dirais également avoir un loisir qui nous occupe les mains. Ça nous rend aussi l'esprit plus léger. Il y a un article très intéressant dans La Presse sous la plume d'Isabelle Haché, appelée Les Tricoteuses, qui parle de 25 dames âgées à la maison Dora dans le quartier Hohensick qui font beaucoup, beaucoup de tricot et dont les profits de leurs tricots vont à des jeunes de la DPJ du coin. Alors, c'est une manière là, de se tenir occupé puis en même temps d'être très utile dans la société. Un très beau geste intergénérationnel. Et comme on aura beaucoup de temps encore à passer dans nos maisons, ben peut-être que tiens, tricoter, ça peut être un beau loisir. Je vous offre, parlant de maison, une belle chanson de la bottine souriante dans nos vieilles maisons.
Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le Saint-Quentin. Pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, ma haute robe sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon. Dans nos vieilles maisons, sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir, rien d'une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Hurle, pain, tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur cousine d'enfant. En montant, on les couche, cinq par lit, faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violoneux. Parce que c'est gay dans nos veillées, la vie a du bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Tito avec Joséphine, le grand Arthur et Caroline. Thérèse avec Napoléon, puis tous les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Fritzine qui va coller le premier set de la veillée. Swingez-la, susplanchez-la, les gigueux sont fatigués. Thérèse qui étouffait est allée ôter son corset. Dans son gaiement, c'est le bon temps du rigodon dans nos vieilles maisons. Quand c'est le temps du réveillon, la vieille a fait des crotons, du ragoût de pâte de cochon, la tourtière et du jambon. Des serres sur la table, notre bon sirop d'érable, des beignes de la crème d'habitat, les ceintures en feu de cran. Maintenant qu'on a trop mangé, on peut à peine souffler des histoires.
affaires à raconter. On dit là, ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin. On réveille les enfants, on dit au revoir en voyant. Oh yeah! Ça se passe comme ça. La vie a du bon dans nos vieilles maisons. C'est la tradition dans nos vieilles maisons.
C'était « Dans nos vieilles maisons » de la bottine souriante. Moi, j'aime bien penser au futur, alors gardez ça en banque pour le party du jour de l'an 2021-2022. C'est avec ça que je vais traverser la nuit l'année prochaine. Oui, je veux garder espoir. Alors, c'est ainsi que se conclut notre première émission de 2021. Merci à Caroline Lalande de Mosaïque Cabinet de Services Financiers et Valérie Harvey, que l'on peut retrouver sur son site internet nomades.com, nomadesse.com. Merci à toute l'équipe de Canal M, Maurice Bolduc en régie, Louis Garon, chef d'hôte d'antenne, Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, on reçoit deux auteurs, Christine Angelard pour « La gratitude qui guérit, comment soigner les blessures du passé » et le chouchou des médias, Guillaume Dulude, pour « Je suis un chercheur d'or » qui est offert ici à Vuivoix. Bonne semaine à vous tous!